Je vous invite à regarder votre Bible hein, dans Ésaïe 53, versets 1 à 3. Ésaïe 53, versets 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Le prophète Ésaïe, vous le savez, a écrit ce texte environ 700 ans avant la mort du Seigneur Jésus sur la croix du calvaire. 700 ans avant la mort de notre Seigneur Jésus sur le calvaire. Et pourtant, la description des souffrances de Christ dans ces versets, je vous invite à lire la totalité hein, de ce passage d'Ésaïe 53, la description des souffrances de Christ est si précise, et quand je lis les passages, il me semblait comme si Ésaïe se tenait au pied de la croix pour décrire la mort du Sauveur. Quand vous lisez, il ne faut pas commencer à Ésaïe 53, verset 1, mais il faut commencer à Ésaïe 52, verset 13. C'est ce qu'on appelle le quatrième cantique du serviteur. Et donc, en Ésaïe 52, verset 13, vous regardez votre Bible, nous lisons, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il se lèvera bien haut. » On a l'impression que Ésaïe, ici, décrit la majesté de Dieu. Non, il va décrire les plus terribles souffrances du Fils de Dieu. Et le passage nous trace un portrait, je dirais, des plus étonnants et c'est des plus exacts en ce qui concerne la personne du Messie exalté à travers la souffrance. Et au passage, j'intitulerai ce message « Le portrait du Messie souffrant. Le portrait du Messie souffrant. Et à ce sujet, nous allons parler de quatre traits de ce portrait. Hein? D'abord, le premier trait de ce portrait, nous allons voir hein, sa force insoupçonnable. Au verset 1, en faisant allusion à cette expression « bras de l'Éternel ». Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Un deuxième trait que je vois dans ce passage du portrait du Messie souffrant, c'est son ascendance, j'ai dit indétectable, mais peut-être je dirais non remarquée. Au verset 2. Et après, nous allons parler du troisième trait de ce portrait, son apparence indésirable. Personne ne veut. Et pour terminer, le quatrième trait de ce portrait, son sort non enviable. Personne n'en veut de finir comme il a fini, hein, sur la croix. Donc, sans tarder, nous allons regarder le premier trait de ce portrait hein, du Messie souffrant, à savoir donc sa force insoupçonnable à travers l'expression « le bras de l'Éternel qui a reconnu le bras de l'Éternel ». Quand la Bible utilise des expressions comme celles, il ne faut pas prendre au sens littéral comme si Dieu avait un bras de chair comme nous. C'est une métaphore hein, pour décrire un attribut de Dieu, à savoir ici sa force, ou si vous voulez sa puissance. Exprimer cette expression dans divers passages de la Bible, c'est ce que je vous amène à regarder avec moi. Donc, ce n'est pas un bras de chair, mais c'est une métaphore pour décrire la force, la puissance de Dieu. Et on peut le voir déjà en Psaume 77, verset 16. par ton bras, tu as délivré ton peuple, le fils de Jacob et de Joseph. Nous voyons ici sa force qui a permis la délivrance de son peuple d'Égypte. Vous voyez, par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Nous voyons cette expression utilisée dans Psaume 44, verset 4, où ce bras, c'est sa force, sa puissance qui a permis de donner à son peuple le pays de Canaan. Regardez, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point par leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les as aimés. Donc ici, ce n'est pas par la propre force des Israélites qu'ils ont pu sortir, si vous voulez, du pays. Qui a pu acquérir donc le pays de Canaan, qui était la promesse de Dieu pour son peuple, mais c'est Dieu par son bras qu'il a pu les donner à son peuple. Regardez encore l'image, cette métaphore qui a utilisé pour décrire la force, la puissance que Dieu utilise pour la création. Jérémie 32, verset 17. « Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance, par ton bras étendu. » Vous voyez ? « Et rien n'est étonnant de ta part. » Donc, voilà la première chose, le premier trait de ce portrait, sa force insoupçonnable et qui est déployée dans divers domaines comme nous venons de voir. Regardez maintenant le deuxième trait de ce portrait, son ascendance non remarquée. Il est écrit au verset 2, « Il s'est élevé devant lui, qui est le lui, c'est l'Éternel, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Fixons l'attention sur l'expression « faible plante » et surtout « rejeton ». Quand on lit cela dans la Bible, il faut toujours penser que ces expressions sont relatives et ont une signification messianique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça veut dire que cette expression, dans le contexte où Ésaïe parle, a un accomplissement, non pas du temps de Ésaïe, mais vise quelque chose de très loin, plus tard, en la personne du Messie, loin de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce terme rejetant décrit quelque chose de menu. C'est une pousse relativement vulnérable, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce que Ésaïe voulait dire par là ? Il voulait dire que, quand bien même la famille royale, qui était presque réduite à néant, pourquoi ? Parce que ils avaient perdu la royauté suite à la déportation à Babylone. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, quand bien même la famille royale était presque réduite à néant, elle subsistera toujours. Ésaïe le dit aussi en Ésaïe chapitre 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. » Qui est Ésaïe ? Il ne faut pas confondre avec Ésaïe le prophète et Ésaïe. Ésaïe, c'est le père de David. « Et un rejeton naîtra de ses racines. » Comme je viens de vous le dire, la maison de David était dans un état très triste, et au moment de la naissance de Christ aussi. Mais malgré tout, il restait encore de la vie dans la souche et les racines qui avaient donné naissance au premier David. Alors, conformément à la promesse, comme nous venons de lire ici, un rejeton sublime sortira de ce même tronc. Ce que je tiens à vous dire, il ne parle pas du tronc de David. On aurait pu y penser, il s'est trompé, Ésaïe, ici. Puis un rameau sortira du tronc de David, non, d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Pourquoi ce n'est pas le tronc de David, mais le tronc d'Ésaïe? C'est que le prophète déclare que le Messie serait issu d'Ésaïe, père de David, et non du roi David lui-même. En effet, comparé dans la pensée du prophète, Ésaïe, le père de David, l'ancêtre de la dynastie davidique, est comparé à une souche d'un arbre abattu. Je viens de vous parler de l'histoire, hein, quand Juda a été emporté à Babylone, hein, il est tout rasé, hein, et amené les jeunes gens qui étaient puissants, et la royauté détruite, le temple détruit, tout était détruit. Et donc, comparé à la souche d'un arbre abattu, Esaïe voit que cette souche donnera naissance à une nouvelle pousse, cette nouvelle pousse qu'on appelle le rejeton. C'est une manière d'annoncer que Dieu suscitera un nouveau David. Une manière imagée de dire que bien que le Messie soit un descendant du roi de David, dans les Écritures, le Messie est toujours envisagé comme un nouveau David. Et c'est l'espérance des Juifs aujourd'hui d'attendre le règne glorieux de ce Messie. Il est venu pour la première fois, comme on voit, c'est ce que nous décrivons dans Ésaïe 53, comme un Messie d'abord souffrant, et les Juifs ont tourné le dos envers lui, parce que ce n'est pas l'attente de ce qu'ils voyaient, les Juifs. Mais viendra, il va revenir une deuxième fois en tant qu'un Messie non plus souffrant, et c'est un Messie qui est glorieux, et c'est ce qui est vu ici. Et l'apôtre Paul, là, le dit ceci en Romains 15, verset 12. Je vous invite à voir. Esaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner quand? Pas maintenant. Pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. Ça sera le règne terrestre visible pendant le règne de 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Deuxième expression, c'est une faible plante. Ici, donc, Esaïe compare le Messie à une plante frêle que presque personne ne remarque. Le Messie est dénué de toute majesté. Il ne ressemble pas à un descendant de la famille royale quand il est venu pour la première fois. Et quand il parle de la faible plante, ça peut faire allusion aussi sans doute à sa naissance dans la pauvreté et sa vie dans le dénuement, en somme on peut dire, de son abaissement. Est-ce que vous vous rappelez, Marie et Joseph, tous deux sont de la lignée de David, et pourtant ils étaient très pauvres et leur demeure n'avait rien d'un palais. Oui, une autre expression aussi, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de là? L'expression terre desséchée nous fait penser aux ténèbres spirituelles qui régnaient en Israël et la pauvreté spirituelle au moment de la première venue du Messie, n'est-ce pas? Oui, le Fils de Dieu est né dans le contexte d'obscurité et de pauvreté spirituelle. Juste un verset pour vous faire comprendre le lien entre la terre desséchée, et quand nous lisons Matthieu 4, verset 16, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur qui était assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ça, c'est la description de l'état spirituel d'Israël quand le Messie est venu pour une première fois. Ils étaient dans les ténèbres spirituelles, morales, ce qu'on peut dire, et ils habitaient dans les régions et l'ombre de la mort, parlons spirituellement. Et dans ce contexte-là, la lumière s'est levée, notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne l'ont pas reçu. Regardons maintenant le troisième trait du portrait de ce Messie souffrant, son apparence indésirable. Avez-vous remarqué ce que dit le prophète Esaïe? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça me fait rappeler qu'aujourd'hui, dans notre société, n'est-ce pas, on cherche, et à grande fortune, pour s'occuper de l'apparence physique. N'est-ce pas? On sculpte son corps. On fait des liftings du visage. On fait des régimes pour perdre de kilos. et tout le reste. Et ça demande des fortunes incroyables. Ça, c'est ce que nous voyons dans notre société. Et quand on voit prophétiquement comment est vu notre Seigneur, aucune splendeur physique ou sociale n'en faisait de lui un être désirable. N'est-ce pas? Sa gloire divine était voilée par son apparence physique. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, et aussi, je dirais, par ses humbles origines humaines. C'est ça la grande déception des Juifs. Il attendait un Messie glorieux, majestueux. Et c'est pas ce qu'ils ont vu. C'est pas ce qu'ils ont vu. Et ça doit nous apprendre à regarder sur quoi doit porter notre regard de manière pratique. Dieu ne regarde pas sur l'apparence, il regarde au cœur. Et ils ne savaient pas que ce Messie venu souffrir sur la croix pour eux est le Messie. Parce qu'ils se sont trompés de calendrier, ils ont rejeté un Messie qui souffre, ça n'est pas admissible. Mais il a fallu d'abord qu'il souffre et venir souffrir sur la croix pour payer les peines de nos péchés et porter nos péchés en son corps. Ce qui nous amène au quatrième trait du portrait de ce Messie souffrant, son sort non viable. Écoutez bien, le prophète méprisé, abandonné des hommes, un homme qui est habitué à la souffrance. Je m'arrête juste sur le premier aspect, méprisé. Vous savez que le Seigneur a été méprisé dès son enfance, de par le quartier dans lequel il se trouvait. Aujourd'hui, on stigmatise un quartier, une ville. Si vous habitez aujourd'hui au 9-3, vous ne serez pas vu de manière, je ne sais pas comment le qualifier. Et Jésus, à l'époque, l'équivalent d'un quartier de 9-3 en région parisienne, il venait de Nazareth. Et quand Philippe est allé voir Nathanaël, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous voyez? Et c'est là, dès son enfance, il a été méprisé, notre Seigneur, de là où il habitait. Il a été méprisé, non seulement dès son enfance, mais par les hommes religieux de l'époque. Matthieu 12, 24. Les pharisiens ayant entendu cela, disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Oui, les pharisiens attribuaient ces miracles aux démons pour le mépriser. Et le Seigneur était encore méprisé par le grand du monde de son époque, par le roi Hérode, Luc 23, 11. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Vous voyez? Je ne fais que citer, il a été méprisé par les soldats du gouverneur en tressant une couronne d'épines et en posant sur sa tête cette couronne d'épines. Il disait, salut roi des Juifs! Il lui donnait des soufflets. Le Seigneur a été méprisé par les chefs des Juifs et la foule lorsqu'il était sur la croix. Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Non seulement qu'il a été méprisé, mais il a été abandonné des hommes. Abandonné des hommes. Oui, si vous vous rappelez un incident qui s'est passé où Jésus n'avait plus le temps de manger ni se reposer et ses parents étaient inquiets au sujet de lui parce qu'il ne mangeait pas, il ne dormait pas et il arrivait à la conclusion qu'il est hors de sens de ses propres parents. Oui, il était abandonné par ses frères. Les demi-frères, si je peux dire ainsi. Il était abandonné par ses disciples quand il était sur la croix. Même avant. Et vous savez, les chefs religieux ne le reconnaissaient pas. Qui le reconnaissait dans la société? Seuls les méprisés, les pauvres, les gens de mauvaise vie, les humbles. C'est seulement ceux-là qui l'ont suivi. Et ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, aussi, ceux qui suivent Jésus-Christ sont aussi méprisés, rejetés, persécutés, comme le Seigneur lui-même avait dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Et le comble, hein, c'est un homme de douleur et habitué à la souffrance. Quand il parle, Esaïe, homme habitué à la souffrance, il ne laisse pas supposer que c'était un homme malade. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. En fait, il s'était chargé de nos fardeaux. Il a donc ressenti et expérimenté nos souffrances à cause de nos péchés. Cela ne se produisait pas uniquement au moment de sa crucifixion, mais tout durant son ministère. Oui, le Messie connaissait toutes les souffrances des hommes. Pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Ne vous rappelez pas un moment, il passe, il voit sur Jérusalem, il pleure sur l'état spirituel du peuple de Jérusalem. Il pleurait sur les brebis sans berger. Oui, il connaît pleinement le dilemme spirituel de l'être humain. Il a vécu dans sa chair. Et nous lisons dans Ésaïe, versets 4 et 5, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Je voudrais m'arrêter et dire ceci. Il est important de comprendre que la mort de Christ n'est pas un accident. Hein, parce que nous lisons verset 10 d'Ésaïe, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » La question c'est que pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pourquoi Dieu lui-même, son Père, l'a brisé par la souffrance? Il y a quelque chose d'incompréhensible. Et je dirais, nous laisse sans voix. Quand on considère que l'homme parfait, sans péché, que notre Seigneur est, il a pris la place des hommes pécheurs comme vous et moi. D'une part en portant nos péchés sur lui, et d'autre part pour subir à notre place les conséquences que nous méritons à cause de nos péchés. Qu'est-ce qu'on doit dire? C'est injuste. L'homme sans péché a été sur la croix à la place des pécheurs quand vous y vous. C'est injuste, dirons-nous. Et on devrait crier « Injuste ! Injustice !» Oui, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous allons prendre dans quelques instants la Sainte Cène. Nous rappelons qu'il était transpercé à cause de nos crimes, nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. Il est mort pour le peuple de Dieu. À cause du péché de mon peuple, au verset 8, le sauveur innocent a été compté parmi les malfaiteurs. Il était cloué entre deux brigands, rappelons-nous, et puni par Dieu le Père. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Telle est la vraie signification de cette phrase. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Ce qu'il faut retenir et se rappeler, ne jamais oublier en lisant Ésaïe 53, que le Messie qui est visé par ce passage ne s'est pas seulement chargé des conséquences de nos péchés, mais a porté aussi nos péchés sur lui. Pas seulement les conséquences, mais nos péchés sur lui. Et quelle réponse ça doit susciter en nous? C'est frappant la réponse de Ésaïe. Nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Aucun cas. Il fut l'objet d'un profond dédain de la part des hommes. Et vous savez, il a été évalué à peu de choses. Lui qui aurait dû recevoir l'honneur, la louange, la gloire des hommes de son temps. Et pire encore, il a été estimé à peu de valeur aux yeux des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple, qu'il n'offrait que 30 pièces d'argent à Judas, qui le leur livra Jésus. Et en contraste, dans un autre contexte, Marie de Béthanie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, ognit les pieds de Jésus, elle l'essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Les chefs du peuple, les principaux sacrificateurs, estimaient le Seigneur peu de choses. Mais Marie nous montre combien, à ses yeux, le Seigneur valait. Ce matin, avez-vous répondu à son amour en abandonnant votre péché, si vous n'êtes pas encore en Christ? Je vous supplie de l'accepter par la foi comme votre sauveur. Je dirais, faites-le sans tarder. Vous êtes déjà au Seigneur, appartenant à Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Cherchez-vous à lui plaire de tout votre cœur? Quelle est votre appréciation du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que, comme ce que le prophète Ésaïe dit, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas? Aux yeux des croyants qui étaient au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ, parce qu'ils ont placé leur foi en lui pour leur salut, le salut de leur âme, il doit être tout pour lui. Christ est tout suffisant pour chacun d'entre nous, et sa personne doit être inestimable. On doit toujours être émerveillé, non seulement de sa personne, mais de son œuvre sur la croix. Vous savez, j'ai décrit les quatre portraits ce matin, et ce portrait que décrit le prophète Ésaïe, dont nous venons de parler, pourquoi ils étaient là? C'est pour nous montrer que son abaissement à travers ses souffrances, sa mort infâme sur la croix et sa résurrection, ont servi à son élévation à la gloire. Réfléchissez bien à cela. Ce portrait qui a été décrit par Ésaïe nous montre son abaissement, qui a permis son élévation à la gloire. Vous savez, quand on parle de la gloire, j'aimerais que vous essayiez d'imaginer bien le contraste qu'il faut mettre ici. Quand dans ce monde, vous parlez de la gloire d'une personne, comment est conçue dans ce monde la notion de gloire? Tout simplement, quand vous êtes plus dans la situation des hommes normaux, hors normaux, mais vous sortez du lot. Qu'est-ce que j'entends par cela? Exemple, vous savez aujourd'hui, combien il est admiré, combien aux yeux des Français, qui est M. Thomas Pesquet? Vous savez, c'était un pilote de ligne comme tous les autres pilotes de ligne. Normal. Mais il est devenu spationaute. Il était pilote de ligne comme tout le reste. Il est sorti du lot. Spationaute. Quelle gloire pour la France. Pensez aux footballeurs qui sont les ballons d'or. Lionel Messi. Un joueur comme tous les autres est sorti à cause de l'excellence de ses performances, élevé au-dessus et on admire, n'est-ce pas? Il y en a d'autres qui veulent aussi le devenir. Donc la gloire aux yeux du monde, c'est quelqu'un qui était dans une situation ordinaire et qui sort au-dessus du lot pour vivre une situation extraordinaire et tous les projecteurs vers lui, n'est-ce pas? Ça, c'est la gloire. Et qu'est-ce que nous apprend ici le prophète Ésaïe? La gloire, au sens biblique du terme, c'est pas ainsi. C'est quelqu'un qui avait tout en tant que Dieu créateur, tout puissant, et qui a mis de côté toutes ses prérogatives divines, et qui est descendu, accepté de devenir un homme, devenir un serviteur, un esclave, et de venir jusqu'à la croix, mourir à notre place, l'abaissement. Ça, c'est la gloire. Celui qui a toute la gloire et qui accepte de s'humilier jusqu'à la mort la plus infâme. Au sens biblique du terme, c'est contraire de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. La gloire aux yeux du monde, quelqu'un d'une situation ordinaire, Demain, dans une situation extraordinaire, et le projecteur est sur lui. Mais croyez-le moi, quelqu'un qui, non, le Fils de Dieu, de toute éternité, qui a quitté la gloire, et accepte d'arriver au plus bas de plus bas, s'est humilié. Au sens de la Bible, notre regard doit être ainsi, et notre conception de la gloire est ainsi. Je résume en deux mots. Dans le monde, la gloire, c'est quelque petit, devient grand, et le projecteur est là. Et la gloire, au sens de Ésaïe et de Paul, là, c'est quelqu'un très grand, qui devient tout petit. Vous voyez? Et c'est ça que nous apprend ici Ésaïe. Et tout à l'heure, nous allons nous glorifier en prenant la Sainte Cène, nous glorifier de l'abaissement de notre Seigneur. Dans le monde, on ne va pas mettre le projecteur pour quelqu'un qui s'abaisse. Aujourd'hui, quelqu'un de humble, même au temps de l'Antiquité, n'est jamais applaudi. Hein? Vous n'êtes pas applaudi pour votre humilité. Parce que l'humilité était considérée dans la société de l'époque, dans l'Antiquité, comme une faiblesse. Et même aujourd'hui, quelqu'un qui ne sait pas se dévoiler. Personne n'en veut. Le projecteur ne sera jamais. Mais les chrétiens qui ont compris ce que c'est la gloire aux yeux de Dieu, c'est le Dieu créateur, le tout-puissant de l'univers, qui a laissé de côté toutes ses prérogatives divines, accepte de paraître comme un simple homme, avec une force insoupçonnable, avec une ascendance non remarquée, avec une apparence indésirable et avec un sort non enviable, accepter d'être serviteur insignifiant et de mourir jusqu'à la croix, loin de tout projecteur. Qu'est-ce que dit Paul en Philippiens chapitre 2, verset 5 ? Ayez cette pensée comme le Seigneur lui-même acceptait de s'abaisser. Et c'est ce que nous allons faire dans un instant, en pensant à notre Seigneur, en pensant à sa gloire dans son abaissement, et nous glorifier de cela. Le monde ne met pas le projecteur, mais les chrétiens reconnaissant et émerveillés. Comment est-ce possible? Oui, c'est possible. Ésaïe vient de nous le montrer, ce portrait. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta main. Que nous puissions voir combien Dieu est insondable, combien sa sagesse nous dépasse, combien ce que nous voyons dans le monde qui brille, c'est ça qui attire le projecteur, attire notre attention et on veut le devenir. Je pense comme Elon Musk, qui est un simple ingénieur, devient maintenant un milliardaire et il applaudit, il est entendu, on suit et... Je ne dis pas divinisé, mais presque, avec tous ses projets. Et l'homme cherche ce qui brille. Et ce matin, Père, peut-être notre conception aussi, c'est ainsi, mais que tu nous enlèves cette mentalité. Que nous acceptons de suivre le chemin du Seigneur, dans l'abaissement, dans l'humilité. Et parfois, tu fais exprès de nous mettre dans des situations pour nous apprendre à vivre dans l'humilité, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a subi. Nous voulons de parler de la croix, mais tout au long de sa vie, méprisé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Moqué, jamais répondu. Humilié, mais sans silence, avec silence. Et Père, dans notre quotidien, nous allons prendre la Sainte Cène, aide-nous à nous rappeler de cette image, de ce que nous devions ressembler en lui, chaque jour dans nos vies aussi. C'est le chemin par lequel nous imitons notre Seigneur. Et qu'il soit glorifié, même si le monde considère ça comme une faiblesse, mais que nous puissions considérer comme une force. Et c'est la vérité. L'humilité, c'est une force de caractère. L'humilité, c'est le Seigneur décider volontairement d'accepter d'être moqué. Il a accepté volontairement d'être rejeté. Parce qu'il voulait plaire au Père et non pas les hommes. Au Père, équipe-nous de ces mentalités, équipe-nous de cela pour pouvoir admirer, émerveiller, louer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et dans ce nom, nous te prions. Amen. Donc la Sainte Cène, hein, ce n'est pas pour tout le monde. La Sainte Cène, hein, c'est pour ceux qui sont se sait sauvé. C'est pas nous qui nous enorgueillons que je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé parce que Dieu m'a dit, je le tiens au mot. Celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Mais c'est pour ces personnes-là. Et non pas seulement ça, c'est d'accepter de passer par les eaux du baptême. Les eaux du baptême, hein, c'est pour montrer tout simplement ce qui s'est passé à l'intérieur du cœur. J'ai cru au Seigneur, pécheur que j'étais, j'ai confessé mes péchés, j'ai demandé pardon, j'ai mis ma foi en lui. Si tel est le cas, ne tardez pas. Passez par les eaux du baptême pour le témoignage public de ce qui s'est passé dans votre cœur avec le Seigneur. Donc si vous êtes sauvé, si vous êtes baptisé, c'est pour vous. Et il ne faut pas qu'il y ait des péchés qui vous empêchent. Hein, on peut prendre quelque temps maintenant de prier. Parce que nous sommes pécheurs, n'empêche encore. La seule différence entre avant qu'on n'était pas sauvé et maintenant qu'on est sauvé, la différence, tout simplement, nous ne demeurons plus dans le péché. Avant, pas le choix. On était esclaves. Mais maintenant, en Jésus-Christ, on peut dire non au péché. On peut dire, je confesse mes péchés. Et c'est ce que je vous demande de faire maintenant, dans le silence de vos cœurs. Adressez-vous à Dieu qui aura rien qui vous empêche. C'est pas que nous sommes justes par nous-mêmes, mais nous sommes sous couvert de Jésus-Christ qui est le juste, et nous devenons aux yeux de Dieu, juste comme il est lui-même juste, parce que Dieu nous voit à travers la justice de Jésus-Christ. Demandez pardon, parce qu'il n'y a que les péchés non confessés qui ne sont pas pardonnés. Et Dieu nous pardonne. Et après cela, ce quelques instants, deux minutes de silence, de prière dans notre cœur, je vais inviter Yannick de venir. Premièrement, vous servir, donc on est toujours Covid, hein. On prend la précaution de partager le pain et vous attendez tous, une fois qu'on a le pain, on mangera ensemble. Parce que la Sainte Seine manifeste la communion avec Dieu, mais la communion avec les uns, les autres, hein, autour de notre Seigneur.